est l'heure de retrouver la chronique de Sarah Calegna. Bonjour Sarah, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Bonjour Sybille et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de torture. Oui, vous avez bien entendu, même si je vous vois déjà tous un peu buggés en vous disant « Attends Sarah, mais on a déjà eu une semaine un peu merdique, même dans un désert du Qatar, il fait moins chaud. » On a l'impression que toute la France participe à la nouvelle édition de Koh-Lanta. Non vraiment, la torture, c'est le seul sujet que tu as trouvé aujourd'hui ? Eh bien oui, parce que le calendrier fait bien les choses, et aujourd'hui, quand vous écouterez cette chronique, nous serons le 26 juin. Et chaque année, à cette date, a lieu la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture. Donc, vous allez m'écouter et vous irez ensuite vous réfugier dans un Picard ou prendre un train pour la Sibérie. C'est sûr que l'ambiance goulag, c'est pas top, mais au moins vous aurez froid. Alors, déjà, qu'est-ce que la torture ? Ce terme désigne tout acte par lequel on va volontairement et intentionnellement infliger à une personne des douleurs ou des souffrances physiques ou mentales. Et ceci afin d'obtenir d'elle ou d'une autre personne des aveux, des renseignements ou pour la punir d'un acte commis ou pour faire pression sur elle ou une autre personne. La torture peut être commise par n'importe qui pour être qualifiée de torture. Une personne privée, une autorité publique, un agent de l'État, un policier ou membre d'un gang ou même un membre d'une famille. Il n'y a pas des personnes pour lesquelles, pour une, on dirait que le même acte était de la torture et pour l'autre, on le justifierait. La torture reste fondamentalement un acte de violence, un acte qui est universellement condamné par le droit international. En 1948, tout d'abord, la Déclaration universelle des droits de l'homme dit en son article 5 que nul ne sera soumis à la torture. Ensuite, en 1984, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. On a même mis en place dans la foulée un comité contre la torture ainsi qu'un rapporteur spécial sur la torture. En 2002, on complète la Convention contre la torture par un protocole facultatif qui vient empêcher la torture dans les lieux de détention, autrement dit en prison. Et enfin, en 2026, on a même adopté la Charte des droits des victimes et des survivants de la torture, élaborée par des survivants de la torture eux-mêmes, qui énonce les droits et les protections que ces survivants doivent avoir pour permettre leur rétablissement. Vraiment, cette interdiction de la torture est très largement encadrée. Et on la retrouve dans de très nombreux autres textes relatifs aux droits de l'homme, comme l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit la torture, ou l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Et en aucun cas, la torture peut être justifiée. D'autant plus que selon certaines circonstances, décrites aux articles 7 et 8 du statut de Rome, ce statut qui a créé la Cour pénale internationale, la torture peut être considérée comme constitutive d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre. Et pour moi, il était particulièrement important de vous parler de cette journée dédiée aux victimes de la torture, parce qu'il y a une région dans le monde où à chaque minute, des hommes et des femmes sont torturés sans relâche et de la manière la plus brutale qui soit, la République islamique d'Iran. Et je vais vous parler du cas de Parashtu Hammadi. C'est une chanteuse iranienne de 29 ans qui, en décembre 2024, a interprété une chanson patriotique en honneur à la jeunesse du pays sacrifié par le régime. Elle a interprété sa chanson en direct, sur sa chaîne YouTube et surtout sans hijab, sans son voile. La vidéo a eu un succès phénoménal, mais c'était trop tard. La chanteuse et toute son équipe de musiciens a été arrêtée. Et il y a quelques jours, la condamnation vient d'être prononcée à leur encontre. Ils ont été condamnés chacun à subir 74 coups de fouet. Vous avez bien entendu, 74. Pour le régime des Mollahs, cette vidéo était une atteinte bien évidemment à l'obligation de porter le voile, mais aussi une atteinte à la décence publique, car ils auraient produit un contenu vulgaire et immoral selon eux. Oui, chanter sur YouTube pour la mémoire des milliers de jeunes assassinés est un contenu immoral pour les Mollahs. Et cette peine de flagellation ne relève pas uniquement du droit pénal international. Bien que de nombreux militants pour les droits de l'homme iraniens soulèvent qu'il n'existe rien dans la loi iranienne qui pourrait justifier cette condamnation. Ça relève aussi surtout des obligations internationales qui pèsent sur les États d'interdire la torture. Du coup, se pose une petite question de droit. Si la loi d'un pays prévoit quelque chose, est-ce que c'est forcément justifiable? Les pays peuvent-ils faire ce qu'ils veulent avec leur propre loi nationale? Par exemple, si cette peine, celle de la flagellation, est prévue par la loi de la République islamique, en est-elle pour autant légitime? Bien évidemment que non. Il y a un principe simple. Ce n'est pas parce que c'est la loi d'un pays que cela ne viole pas le droit international. Et dans le cas de Parashtu, même une peine prévue par la loi d'un pays peut constituer une torture en droit international. Le droit interne ne permet pas à un État de s'affranchir de ses obligations internationales. Inscrire la flagellation dans un code pénal ne transforme pas cette violence en sanction acceptable. D'autant plus que la République islamique d'Iran n'a pas ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture. Ça en dit long, sur les méthodes du régime qui n'a pas envie qu'on vienne lui chercher des noises, sur la façon dont il traite sa population. Sauf qu'en 1975, l'Iran a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l'article 7 interdit la torture. Donc le pays est lié, qu'il le veuille ou non, par ses obligations. Et cette interdiction de la torture ne connaît aucune exception. Ni la guerre, ni l'état d'urgence, ni la sécurité nationale ne peuvent justifier la torture. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques précise même qu'un État ne peut pas suspendre cette interdiction en période de crise. De plus, la religion ou la défense de la morale publique, selon les mollahs, ne peuvent pas justifier des châtiments corporels. Donc le cas de cette chanteuse nous rappelle quelque chose d'essentiel. On a toujours tendance à imaginer la torture comme la vision qu'on nous en aurait donnée dans les films, Guantanamo, ou des opérations secrètes, ou des actes commis cachés par des serial killers. Or, dans la réalité, la torture ne se déroule pas toujours dans une cave, bien à l'abri des regards. Elle peut être parfois l'œuvre d'une autorité étatique tout entière, elle peut faire partie des normes d'un pays, et elle peut même, dans le cas de cette chanteuse, être prononcée officiellement par un tribunal compétent. Alors, en cette journée du 26 juin, retenez ceci, aucune tradition, aucune idéologie et aucune loi nationale ne pourra justifier, ni de près, ni de loin, ni maintenant, ni jamais, ce que les mollahs infligent au quotidien au peuple iranien.